Alors, je vous ai déjà dit bonjour, mais je redis bonjour, et en particulier, je pense aux personnes qui sont là pour la première fois ou qui viennent en tout cas nous visiter. Bienvenue à vous. On est dans cette nouvelle série de prédications qui s'intitule Jésus est venu pour trois petits points, d'où le titre de ce message pour annoncer, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alors juste, je me suis fait cette réflexion, le temps passe vite parce que je n'ai pas revu certains d'entre vous depuis le week-end d'église. C'est vrai, non? Il y a à peu près un mois déjà. Mais je vous retrouve avec joie. C'est vrai que j'étais malade auparavant, c'est pour ça. Mais dans un mois, comme l'a dit Laura tout à l'heure, le 24 décembre, nous serons peut-être dans nos familles ou avec des amis en train de réveillonner. Oui, parce qu'avec Pâques, Noël est la fête qui compte le plus aux yeux des chrétiens. Et en cette saison où il fait froid, en tout cas on l'a constaté cette semaine en particulier, où il fait nuit plutôt, nous avons besoin de lumière et de chaleur. Et parmi tous les événements qui se sont produits dans l'histoire, la venue de Jésus a clairement eu cet effet. La lumière a brillé dans les ténèbres. Dieu est venu parmi les hommes pécheurs. Nous sommes habitués à l'entendre et toute la première partie de ce culte nous permettait de nous souvenir encore et encore de cette première venue de Jésus. Nous sommes habitués à l'entendre, mais est-ce que cela nous émerveille encore? Parfois, j'ai pu entendre de la part de certains chrétiens qu'ils n'aimaient pas Noël. Peut-être parce que c'était une période où ils se sentaient encore plus seuls. Peut-être parce que c'était une période où ils redoutaient les retrouvailles avec leur famille, qui ne se déroulaient pas toujours très bien. Et si nous laissions de côté la fête et les réunions de famille pour nous concentrer sur l'événement qui a marqué à jamais notre histoire? Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus fêter Noël, mais le plus important pour notre foi se trouve dans ce que nous lisons dans les évangiles, où les auteurs nous rapportent ce qui s'est passé il y a 2000 ans. C'est le plus important pour notre foi. Et aujourd'hui, nous faisons une halte, comme nous l'avons lu dans l'évangile de Luc, au moment où Jésus démarre son ministère dans la région de Galilée, au moment où il parle de sa mission, ce pourquoi il est venu. Et ce matin, et dans les dimanches à venir, nous méditerons sur ces déclarations de Jésus au sujet des buts de sa venue. Des déclarations parfois surprenantes, et celles que nous avons en Luc 4 avaient peut-être de quoi surprendre aussi ses interlocuteurs. Regardons un petit peu le contexte, d'abord, avant de nous pencher précisément sur cette déclaration de Jésus. C'est assez facile, en tout cas, comme nous l'avons lu à l'instant, peut-être vous l'avez repéré d'emblée, c'est assez facile de voir les différents moments dans ce que Luc est en train de nous raconter. Cela se déroule juste après le baptême de Jésus. Et voilà trois moments qu'on voit dans ce chapitre. D'abord, un premier moment où Jésus est tenté par le diable pendant 40 jours dans le désert. Cela se passe juste après son baptême. Après cela, et c'est le texte que nous avons lu, eh bien, nous voyons Jésus en train d'enseigner dans la synagogue de Nazareth. Et nous avons aussi remarqué la réaction très forte, virulente des Nazaréens qui ne voulaient pas de lui. Et puis, dans une dernière partie de ce chapitre, nous voyons Jésus enseigner de nouveau et faire des miracles à Capernaum. Et là, cette fois-ci, on voit une autre réaction. Les gens veulent le retenir, au contraire. Et je veux m'attarder sur ce ministère de Jésus en Galilée, tel que Luc nous le rapporte. Si nous comparons ce qui se passe à Nazareth et ce qui se passe à Capernaum, nous trouverons à la fois des points communs et des différences. Et je vous propose d'abord de parler des points communs. Comme point commun, nous voyons Jésus enseigner dans les deux cas. Enseigner en particulier dans les synagogues. C'est à la synagogue que les Juifs, déjà à l'époque, se réunissaient le jour du sabbat. Et à Nazareth, nous avons un aperçu de la manière dont se déroulait le culte, avec la lecture des Écritures et l'enseignement. J'y reviendrai. À Capernaum, nous retrouvons aussi Jésus en train d'enseigner le jour du sabbat. dans les deux villes, ce que Jésus dit, ce qu'il enseigne, laisse une forte impression. Les uns sont étonnés d'entendre le fils de Joseph, qui a grandi parmi eux, parler avec autant de grâce. Et les autres sont impressionnés par l'autorité qui se dégage de son enseignement. Ça, c'était pour les points communs entre ce qui se passe à Nazareth et ce qui se passe à Capernaum. Quant aux différences, nous l'avons vu tout à l'heure, le contraste est saisissant. À Nazareth, la réaction est tellement forte. Les gens se mettent en colère. Jésus finit par être chassé de la ville après sa prédication. Les gens sont en colère et le traitent en fait comme un faux prophète. C'est pour ça qu'ils veulent le précipiter dans le vide. Ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Toi qui es le fils de Joseph, tu te prétends être le prophète annoncé par Isaïe. Bien sûr, l'heure de Jésus n'était pas venue et Jésus parvient à s'en aller. Et cela me permet d'ouvrir une parenthèse. En étudiant de plus près cette semaine le ministère de Jésus, j'ai été encouragé par rapport déjà à mon propre ministère de constater de nouveau que le rejet faisait partie de ce que Jésus avait vécu lorsqu'il prêchait et lorsqu'il annonçait la bonne nouvelle. Le rejet de la part de ses auditeurs faisait partie de ce qu'il vivait dans son ministère. Si certains ont placé leur confiance en lui, beaucoup n'ont pas voulu l'écouter ni le recevoir. Et peut-être que nous ne le soulignons pas suffisamment. Si nous annonçons à notre tour l'Évangile, comme nous avons été encouragés tout à l'heure, si nous annonçons la bonne nouvelle, bien entendu, nous aurons des gens qui diront non. Cela fait partie de l'expérience que nous sommes censés vivre à la suite de notre Maître. Cela révèle le cœur endurci de n'importe quel pécheur. Pensons un instant à nous-mêmes, lorsque nous n'étions pas chrétiens. Combien de fois avons-nous dit non quand l'Évangile nous était prêché? Retenons donc que la réaction négative au beau message de l'Évangile est incontournable. C'est une réalité qui peut nous attrister, mais jamais nous décourager. Après ce qui s'est passé à Nazareth, Jésus n'a pas arrêté son ministère, il l'a poursuivi. Je ferme juste cette parenthèse. À Nazareth, donc, le rejet de l'enfant du pays, puisqu'il a grandi à Nazareth. Et à Capernaum, eh bien, rien de tout ça. Jésus accomplit des miracles et tous veulent être guéris par lui. Les gens ne veulent pas se débarrasser de lui, tout au contraire. On part tôt à sa recherche et on veut le retenir. Contraste entre les deux réactions dans les deux villes. Maintenant, quel est le lien entre l'événement à Nazareth et ce qui se passe à Capernaum? Et je voudrais le préciser brièvement, Luc, lorsqu'il écrit, lorsqu'il compose son évangile, bien sûr inspiré par l'Esprit de Dieu, a volontairement placé ce qui se passe à Nazareth avant ce qui se passe à Capernaum, alors que chronologiquement, c'est l'inverse. Chronologiquement, ce qui se passe à Capernaum se passe en premier et ce qui se passe à Nazareth se passe en deuxième. Mais là, il choisit volontairement et nous devons nous interroger sur le pourquoi de cette inversion chronologique, pourquoi il décide de parler d'abord de ce qui se passe à Nazareth. Et nous pourrions le résumer ainsi. Pourquoi cette inversion chronologique? Eh bien, parce qu'à Nazareth se trouve la définition de la mission de Jésus. Luc veut mettre ça en avant. Luc veut mettre en avant, en quelque sorte, le programme de Jésus. Ce pourquoi il est venu. Et il place ensuite, il raconte ensuite ce qui se passe à Capernaum, qui est en fait, en quelque sorte, l'exécution de ce programme. Contrairement aux attentes de l'époque concernant le Messie, le programme ici n'est pas politique ou militaire. Jésus n'est pas venu pour chasser les Romains, mais pour chasser plutôt les démons, la maladie, l'incrédulité. Il est venu avec un message et il est venu en fait pour accomplir ce message. Il est venu avec une bonne nouvelle et il est la bonne nouvelle en question. Il n'est pas que le messager du salut, il est aussi le sauveur. Et à partir de ce contexte, je vous propose de nous arrêter sur le verset en question qui nous intéresse aujourd'hui, le verset 43. Parce que Jésus répond à ceux qui veulent le retenir. Les gens sont impressionnés par ses miracles, sont guéris. Donc normal, ils veulent le retenir. Reste avec nous, encore très longtemps. Jésus fait tellement de bien aux habitants de Capernaum. Jésus répond aux sollicitations, même, vous l'avez peut-être remarqué, même quand le soleil est déjà couché. Mais le lendemain, là où nous pourrions nous attendre à ce que Jésus, en fait, continue de répondre aux sollicitations et aux besoins des gens, il dit très clairement ceci, verset 43, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Remarquez d'abord les premiers mots. « Il faut aussi que... » Capernaum était sur sa liste, mais d'autres villes en Israël n'ont pas encore entendu la bonne nouvelle, n'ont pas encore bénéficié de ces actes de compassion. « Il faut... » que Jésus est conscient de sa mission et de l'agenda précis qu'il doit respecter. Quand à l'Institut biblique de Nogent, j'enseignais la méthodologie, et en particulier la gestion du temps, je mentionnais systématiquement cette citation du pasteur américain Kevin DeYoung. À propos justement de cela, voici ce qu'il disait, ce qu'il écrit. Lorsque les habitants de Capernaum espéraient qu'il les guérirait, il est parti dans un lieu désert pour prier. Quand ses disciples lui ont dit de retourner au travail, il est parti dans une autre ville pour prêcher. Jésus pouvait faire la différence entre l'urgent, les sollicitations des gens, et l'important, sa mission. Il comprenait que toutes les bonnes choses qu'il pouvait faire, et Jésus pouvait tout faire, n'étaient pas forcément les choses qu'il devait faire. Autrement dit, Jésus s'arrêtait sur ce qu'il devait faire. Et non pas, le but n'était pas de faire l'étalage de tout ce qu'il pouvait faire. Jésus faisait ce qu'il devait faire. Parce qu'il faisait la différence entre ce qui était urgent et ce qui était important. Il avait une mission précise et importante. Il fallait que d'autres entendre la bonne nouvelle. Jésus est venu sur terre dans cette intention, annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et il met l'emphase dessus. C'est pour cela que j'ai été envoyé. Sous-entendu, envoyé par Dieu le Père. C'est pour cela que j'ai été envoyé. Et ce verset 43 fait bien sûr écho au texte lu dans la synagogue de Nazareth. Il nous faut juste revenir un instant sur ce passage. Je retourne un peu en arrière dans ce chapitre, au verset 16 à 19. Nous sommes à Nazareth et voici ce qui se passe. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » À Nazareth, Jésus lit ce texte d'Ésaïe 61. On y trouve même une allusion à Ésaïe 58. Et cette prophétie, qui était écrite plusieurs siècles auparavant, est en train de se réaliser au moment où Jésus leur parle. Jésus est celui sur qui se trouve l'Esprit de Dieu et qui a été mandaté pour annoncer la bonne nouvelle, pour proclamer à ceux qui sont enchaînés qu'ils sont libres, pour manifester au peuple la faveur de Dieu. Des siècles auparavant, Ésaïe annonçait que malgré l'exil, qui était un jugement, un châtiment divin, Dieu interviendrait encore en faveur de son peuple. Il interviendrait encore, et tout particulièrement en faveur des pauvres, des prisonniers, des aveugles, des opprimés. Ces termes que je viens de citer, pauvres, prisonniers, aveugles, opprimés, bien sûr peuvent être compris au sens propre. Jésus s'est vraiment occupé des pauvres. Jésus a vraiment rendu la vue aux aveugles. Et il a vraiment libéré des gens opprimés par le diable. Mais d'un autre côté, ces termes renvoient aussi aux besoins spirituels. Le pauvre, celui qui est en totale dépendance, qui reconnaît qu'il n'est pas autosuffisant et qui est réceptif à la main tendue, réceptif du coup à l'offre que Dieu lui fait. L'aveugle, au sens spirituel, c'est celui qui ne voit pas Dieu tel qu'il est. Et c'est pour cela qu'il est endurci, et c'est pour cela qu'il le rejette. Jésus est venu pour, spirituellement parlant, ouvrir les yeux. N'est-ce pas ce que nous chantons parfois ? J'étais aveugle, et maintenant, je vois. Ce texte d'Ésaïe souligne que Dieu n'a pas oublié les plus démunis, les plus vulnérables, celles et ceux qui ne peuvent pas s'en sortir par eux-mêmes. Tout témoigne dans ce texte, dans ce programme, comme je le disais tout à l'heure, tout témoigne de sa grâce et de sa compassion à l'égard des plus faibles. Si nous comprenons que la venue de Jésus, à ce moment de l'histoire, accomplit cette parole d'Ésaïe, nous comprenons alors la nature de sa mission. Nous comprenons mieux en quoi ce qui se passe à Capernaum dans la suite du récit illustre par des actes et par les miracles ce texte d'Ésaïe. Jésus est bien le prophète annoncé par l'Ancien Testament. Et il est bien plus que cela. Et Luc déjà l'avait mis en évidence dès le début de son évangile, lorsqu'il racontait les événements autour de la naissance de Jésus. Jésus est plus que le prophète, il est le Fils de Dieu. Si nous revenons à la déclaration de Jésus au verset 43, l'accent est mis sur le message, sur la proclamation du royaume de Dieu. Jésus a été envoyé, il est venu pour proclamer à tout Israël, et même un peu au-delà, que le royaume de Dieu a fait irruption. Et c'est une bonne nouvelle. Pour celles et ceux qui sont spirituellement pauvres, aveugles ou opprimés, c'est l'annonce d'une délivrance. Mais pour ceux qui ne veulent pas que Dieu règne, ce n'est pas une bonne nouvelle. Voyez la manifestation des forces mauvaises dans ce chapitre. À Capernaum, le premier miracle mentionné par Luc, le premier miracle est un exorcisme. Jésus délivre un homme d'un démon. Et en fait, on constate dans ce moment, dans la synagogue, que le démon ne peut qu'obéir et se soumettre, car celui qui lui donne l'ordre de sortir n'est autre que Dieu. Il ne peut qu'obéir. Le royaume de Dieu est là, en la présence de Jésus. Et c'est impressionnant. Avec la belle-mère de Simon-Pierre, c'est pareil. Observez comment Luc nous raconte la guérison. Jésus se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. Comme s'il chassait, comme il a chassé le démon, il chasse la fièvre. La fièvre non plus, en quelque sorte, si vous me permettez l'expression, obéit, ne peut pas résister, se soumet à celui qui est Dieu. Parce que le royaume de Dieu a fait irruption, il se passe quelque chose à ce moment-là. Et le soir même, c'est le dernier élément qu'on peut souligner aussi, qui illustre qu'il est bien sûr venu annoncer ce message et qu'il l'accompagne d'actes et de signes. Bah, par exemple, il y avait tout plein de malades qui voulaient bien sûr être guéris suite à ce qu'ils ont appris. Et nous voyons la compassion de Jésus. Il guérit chacun d'eux en posant les mains sur lui. Quand nous voyons cela, il est évident que le royaume de Dieu est une bonne nouvelle. Mais ultimement, Jésus n'est pas venu seulement pour guérir les gens de leur maladie, mais surtout pour les délivrer, pour les libérer de l'emprise du péché. Ultimement, Jésus est venu pour que, par son sacrifice à la croix, nos péchés soient pardonnés, pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. La bonne nouvelle ne s'arrête pas à la guérison physique, elle concerne le salut de l'âme, la vie éternelle, l'entrée dans le royaume de Dieu. Et après tout, à quoi bon guérir d'une maladie si c'est pour finir séparé de Dieu ? La bonne nouvelle ne concerne pas seulement la guérison physique, ne s'arrête pas à ça. Si nous concentrons juste sur ce que Jésus est en train de faire, nous disons, c'est incroyable, il fait des miracles, on voudrait qu'il fasse de même encore aujourd'hui. Mais le plus important dans sa mission, c'est ce qui se passe à la fin de sa vie sur terre, lorsqu'il meurt sur la croix. C'est là que sa mission prend sens, fait sens plutôt. C'est là que nous comprenons qu'en fait, toutes ces guérisons ne sont qu'un reflet, un effet de la croix. Parce que finalement, en triomphant du péché et du diable, eh bien en fait, nous comprenons pourquoi aussi il y avait toutes ces victoires contre les démons, contre la maladie. Mais le point central reste la croix. Et j'aimerais vraiment le souligner. Ce ne sont pas les guérisons physiques qui ne sont que ce qui découle de la croix et de sa grâce. Je le note avec le dernier verset de Luc 4, que dans les mots de Jésus, l'accent est mis sur la proclamation. Et c'est pour cela que nous voyons Jésus ensuite, après avoir dit cela, eh bien, retourner prêcher. Il est venu pour prêcher. Il est venu pour parler du royaume de Dieu, pour dire qu'il est temps de changer de vie et d'accepter le règne de Dieu. Et maintenant, posons-nous la question en ce qui nous concerne. Qu'est-ce que cela implique pour nous que Jésus ait dit cela, qu'il est venu pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu ? Si Jésus a été envoyé pour cela, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, cela signifie que son message est très important. Il a été envoyé exprès pour cela. Donc son message est très important. Ce message implique de notre part et de la part de tous les hommes une réponse. S'il y a un message, on attend derrière qu'il y ait une réponse. Et beaucoup d'entre nous, dans cette salle, ont dit oui à ce message. Et c'est encore le moment de dire oui ce matin. Oui au sacrifice de Jésus pour mes péchés. Oui à sa résurrection. Tous deux indispensables pour mon salut. Oui à la réconciliation avec Dieu. Oui au règne de Dieu dans ma vie. Est-ce que dans ma vie en ce moment même, il reste de la place pour me préoccuper du royaume de Dieu ? Si Jésus a été envoyé pour parler à tout Israël du royaume de Dieu, qu'est-ce que j'en fais de ce message aujourd'hui ? Et il faut l'admettre, et je m'inclus totalement dedans, du royaume de Dieu, nous en parlons si peu entre nous. Alors que Jésus en parlait si souvent. Je mentionne juste un verset au début du livre des Actes. Actes chapitre 1, verset 3. « Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant, ressuscité, et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. » Du royaume de Dieu, nous en parlons si peu entre nous, alors que Jésus en parlait si souvent. Le comble pour le chrétien du XXIe siècle, c'est d'oublier la réalité du royaume de Dieu. C'est d'oublier que notre vie est inscrite dans une histoire où le royaume de Dieu a fait irruption il y a 2000 ans, au moment où Jésus est venu. Et que depuis ce royaume, qui n'est pas matériellement visible, eh bien depuis ce royaume prend de l'ampleur. Au fil des époques, le règne de Dieu sur les cœurs touche de plus en plus de personnes, issues de plus en plus de nations. Jésus a inauguré une ère nouvelle. Et nous nous trouvons dans cette ère-là. Alors que ses contemporains se préoccupaient de ce qu'ils allaient manger ou de ce qu'ils allaient porter comme vêtements, Jésus oriente leurs préoccupations vers la véritable priorité. Plus loin, dans l'évangile de Luc, chapitre 12, versets 31 et 32, Jésus leur dit « Recherchez plutôt, au lieu de vous préoccuper du manger et du vêtement, recherchez plutôt le royaume de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. » Et voici une parole aussi rassurante pour le peuple de Dieu. « N'aie pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Et l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Rome qui se disputaient sur des questions relatives au manger et au boire, voici cette parole, Romains 14, verset 17, « En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Si Dieu règne dans ma vie, si c'est son esprit qui me dirige, alors ma vie ressemble à ce qui est décrit ici, justice, paix et joie. Assurément, cela décrit parfaitement la vie de Jésus. Et voici un simple défi que je vous laisse pour aujourd'hui et pour cette semaine. Ayez avec vos frères et sœurs comme sujet de conversation le royaume de Dieu. Peut-être vous allez juste vous demander l'un à l'autre dans une conversation à deux, mais qu'est-ce que le royaume de Dieu ? On en parle ce matin, mais qu'est-ce que c'est exactement ? Ou qu'est-ce que ça signifie de rechercher le royaume de Dieu plutôt que tout le reste ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ou encore, mais pourquoi Jésus en parlait autant ? Eh bien, si vous vous posez déjà ces questions entre vous dans une conversation, c'est déjà un bon point de départ. Et avec la Bible, vous trouverez, je suis sûr, des réponses très intéressantes. Je souligne un deuxième élément concernant un peu ce thème du royaume de Dieu et moi. À l'ère du Black Friday et de la surconsommation, le message de notre société est de posséder, d'acquérir, d'avoir toujours plus. Dans quel but ? Celui de satisfaire notre envie de bâtir notre propre royaume. Plus je possède de biens, et plus cela dit mon importance, ma valeur, l'image que je renvoie aux autres. Et prenons conscience que là, eh bien, nous nous éloignons du royaume de Dieu lorsque nous allons dans ce sens-là. Prenons conscience que si c'est là notre tendance, que notre cœur est finalement plus préoccupé par notre royaume que par celui de Dieu, eh bien, réagissons. Réagissons par rapport au ministère de Jésus, par rapport à ce qu'il est venu faire. Il est venu pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc c'est ça qui doit nous préoccuper en premier. C'est ça notre priorité, au-delà de tout le reste, au-dessus de tout le reste. Est-ce que le royaume de Dieu est encore ta priorité aujourd'hui ? Et deuxièmement, et ça rejoint aussi ce que nous avons vu tout à l'heure avec les encouragements de Laura, c'est que Jésus est venu, bien sûr, pour annoncer la bonne nouvelle, et ce n'était qu'un début. Un début spectaculaire, mais seulement un début. Après lui, les disciples ont reçu de sa part le mandat d'annoncer la bonne nouvelle. Et si nous lisons juste, nous parcourons quelques versets du livre des Actes, nous voyons que c'est ce qu'il faisait. Par exemple, acte 8, 12, quand ils crurent à Philippe, donc ça se passait en Samarie, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Acte 19, verset 8, ensuite Paul entra dans la synagogue où il parla avec assurance. Pendant 3 mois, il discuta de ce qui concerne le royaume de Dieu et il s'efforça de persuader ceux qui l'écoutaient. Et enfin, le dernier verset du livre des Actes, mais aussi cet accent sur le royaume de Dieu. Il, c'est-à-dire Paul, prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une pleine assurance et sans obstacle. Je dois juste préciser une chose ici, c'est que quand les disciples annonçaient le royaume de Dieu, c'était avant tout en milieu juif et samaritain. C'était là où, en fait, les auditeurs avaient déjà une certaine compréhension de ce que voulait dire le royaume de Dieu. Parce que les Juifs, en fait, attendaient ce royaume, l'établissement de ce royaume. Mais aujourd'hui, si la bonne nouvelle doit encore être annoncée, parce que beaucoup ne l'ont pas entendue, nous ne commencerons peut-être pas par cette notion qui est étrangère pour nos contemporains. Mais peu à peu, il s'agira quand même d'en parler, comme nous le faisons à l'instant. Peu à peu, il s'agira quand même de parler du royaume de Dieu. Et il y a là, sans doute, un défi aussi à relever ensemble. Comment annoncer le royaume de Dieu aux Français d'aujourd'hui? Il me semble qu'il faille commencer par Jésus. Peut-être que la réponse paraît simple, mais commencez par Jésus. Commencez par évoquer qu'il est venu il y a 2000 ans. Et justement, on est dans cette période de Noël qui est toujours une bonne occasion d'en parler, parce que c'est ça le véritable sens de Noël. De rappeler à nos contemporains, nous fêtons Noël parce que Jésus est venu il y a 2000 ans. Il me semble qu'il faille dire que Jésus est venu pour parler d'un royaume dont il est le roi. Et en parlant de Jésus, en parlant de sa vie quand il était sur terre, en parlant de sa mort quand il était sur la croix, en parlant de sa résurrection quand il était hors du tombeau, en parlant de Jésus, nous parlons de la bonne nouvelle, qu'il n'a pas seulement annoncée, mais qu'il a accomplie. Message d'espoir, message de libération pour nos contemporains. Oui, tout à l'heure, on parlait de bonne nouvelle, et effectivement, quand on reçoit une bonne nouvelle, on est tout content de pouvoir l'annoncer. Mais la teneur même de cette bonne nouvelle, message d'espoir et de libération, c'est ça que nous voulons que nos contemporains sachent, qu'ils peuvent être libres en Jésus-Christ. Jésus représente un tel espoir pour l'humanité qu'en ce Noël, nous allons encore parler de lui. Et ce sera le cas. Je le mentionne, par exemple, concernant le samedi 14 décembre. Ce sera le cas lors du Noël des enfants. Et ce sera l'occasion d'unir nos idées, nos compétences, nos efforts, et avec l'aide indispensable du Saint-Esprit, d'annoncer à nos invités le roi venu pour les sauver. Jésus est venu pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est le message le plus important qu'il nous a transmis. Et nous sommes maintenant ses envoyés pour le transmettre à d'autres avec l'assurance qu'il est avec nous dans cette mission. Il ne nous a pas dit « Allez-y et je vous regarde faire ». Il a dit « Allez-y et je serai avec vous ». Je vous ai dit au début du message de laisser de côté la fête, les réunions de famille, pour nous concentrer sur l'événement qui a marqué à jamais notre histoire. Si l'événement est si significatif, c'est parce que celui qui est venu est une personne vraiment spéciale, envoyée par Dieu pour annoncer la bonne nouvelle de son royaume. Et pourquoi est-ce une si bonne nouvelle? Et je terminerai là-dessus. Considérez ce qu'a représenté le péché d'Adam et d'Ève. Considérez les répercussions, les conséquences, les effets de la chute jusqu'à aujourd'hui. Ça a été complètement désastreux. Considérez maintenant ce qu'a représenté la venue de Jésus. Sa vie parfaite, son sacrifice et sa résurrection. Considérez les répercussions, les conséquences, les effets de la rédemption jusqu'à aujourd'hui. Vous visualisez les deux, la chute et ses effets, la venue de Jésus et ses effets. Jésus est venu. Le royaume de Dieu a été inauguré. Et nous attendons maintenant son retour pour clôturer cette histoire et pour que les conséquences de la chute disparaissent définitivement. Nous vivons à une période de l'histoire où ce renversement de la chute est en cours. Et c'est là que nous nous rendons compte à quel point la venue de Jésus est extraordinaire pour produire un effet encore 2000 ans après. Et bien sûr, pour produire un effet éternel, jusqu'à faire disparaître les conséquences de la chute. Est-ce que vous prenez conscience de cela? Ce n'est pas juste la naissance d'un sauveur, d'un bébé, d'un homme qui nous ressemble. Mais cet événement est suffisant pour renverser tout ce que la, voilà, toutes les conséquences du péché et tout ce qui a été dévastateur. Pour pouvoir mettre fin à toutes ces conséquences. Voilà pourquoi nous sommes si reconnaissants pour la venue de Jésus, qui produit encore, 2000 ans après, son effet sur notre vie. Prions ensemble. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour ta parole. Te rendre grâce tout particulièrement d'avoir envoyé Jésus. Jésus qui est venu pour annoncer la bonne nouvelle de ton royaume. Accorde-nous encore l'intelligence de comprendre en quoi ce message est si important et en quoi nous devons continuer aussi de le transmettre. Parce que oui, le royaume de Dieu a été inauguré en la personne de ton Fils. Et c'est un royaume tellement puissant qui agit de manière tellement forte, capable de renverser les conséquences de la chute, capable de renverser tout ce que l'homme a gâché par son péché. Et c'est vrai, nous voulons continuer cette mission avec toi. Oui, accorde-nous, Seigneur, comme nous l'avons déjà prié, cette audace de pouvoir, en cette saison de Noël, encore parler de Jésus. Encore faire prendre conscience à nos contemporains qu'il existe un royaume qui est en train de se développer, peut-être de manière invisible, peut-être de manière cachée aux yeux des uns et des autres. Mais pourtant, c'est bien une réalité. Et tu nous as permis d'en prendre conscience. Et tu nous as inclus, Seigneur, dans ce royaume. Alors merci, Seigneur, de continuer ton œuvre, de poursuivre cette œuvre que tu fais déjà. Et nous savons dans quel sens va l'histoire. Nous savons qu'il va dans le sens de la consommation de toutes choses, dans l'achèvement de ton plan, dans le fait que ton royaume sera pleinement établi et que plus personne ne pourra le contester. Alors oui, Seigneur, c'est avec cette espérance-là que nous voulons continuer à transmettre la bonne nouvelle. Au nom de Jésus. Amen.